Donc, chers amis, un grand merci de participer à ce petit colloque dédié aux membres de la famille Appia en relation avec la société évangélique. J'aimerais tout d'abord souligner la participation de M. Samuel Widmer, qui est donc un ancien et qui a été longtemps président de la société évangélique et qui est aussi très engagé dans l'Église évangélique libre. Enfin, on apprendra tout ça tout à l'heure. Naturellement, un grand merci aussi à Rainer Schlosser, notre ami, professeur, grande personnalité allemande, très engagée dans le monde de la Croix-Rouge. Et comme nous parlons des Appia, et que les Appia ont des très solides implantations en Allemagne, tous se réunissent bien. Et puis merci à Elien de s'occuper de la logistique. Qu'est-ce que je dois... Oui, bien naturellement, c'est celui qui s'est le plus caché, mais c'est aussi celui qui est venu de plus loin, Mohamed, notre ami, Mohamed Ben Ahmed, membre correspondant de la société Henri Dunant, avec lequel nous avons le plaisir de très souvent collaborer. Alors je crois que nous pouvons démarrer tranquillement cette première partie de notre colloque. Rainer, à toi, volontiers.
Bonjour et bienvenue à ce colloque sur Louis Appia, Georges Appia, Henri Appia. Tout d'abord, je veux dire que je me sens très honoré que la société Appia et Roger Durand ont décidé de m'inviter à vous accompagner pendant cet après-midi. J'avais imaginé ce que Roger vient d'exprimer, que le choix est tombé sur moi à cause des relations avec l'Allemagne. Louis Appia est né en Allemagne, à Hanau, a fait sa formation à Bonn et à Heidelberg. Il a passé sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, et après sa première vie professionnelle à Francfort. Mais ce n'était pas seulement Louis Appia qui a des liens avec l'Allemagne. Son frère Georges est né à Francfort, donc lui aussi a passé quelques temps en Allemagne. Et son neveu, donc le fils de Georges, le neveu de Louis, a fait ses études en Allemagne, à Berlin, à Erlangen. Il a bénéficié de la renommée de son oncle, qu'il était même parfois invité à des réceptions de la Cour de Prusse. Donc, il a des étroits liens avec l'Allemagne, mais je pense qu'on en va écouter plus pendant nos interventions. Vous connaissez le programme. Nous avons 5 interventions de 5 spécialistes, des historiens en sens étroit et aussi des membres de la famille Appia qui naturellement connaissent le mieux ses antécédents. On va voir. Donc on écoutera 3 interventions sur les membres de la famille, sur Louis, sur Georges, sur Henri, et nous avons 2 interventions au début, à la fin, qui nous informent sur le contexte historique des 3 personnes dans l'église de Genève, une fois de la perspective historique, une fois de la perspective actuelle. Et bon, je vous présente les conférenciers, donc premièrement la conférencière, Valérie Lacquion, qui est la spécialiste par excellence pour ce sujet, voire première mission de la Société évangélique de Genève au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Valérie Lacquion a enseigné aux universités de Genève et de Neuchâtel. Elle a fait sa thèse de doctorat sur une démarche une croisade pour la défense du dimanche chrétien. Elle est spécialiste pour l'histoire de l'histoire religieuse en Suisse et à Genève. Et elle est aussi très organisée dans les diverses sociétés ici à Genève. Elle est, peux-je dire, une main droite de Roger Durand, parce qu'il en a plusieurs. Donc je vous prie, Valérie, de prendre ma place.
Merci, Valérie. En septembre 1861, pendant une dizaine de jours, Genève devient la capitale du protestantisme évangélique. Après Londres, après Paris et Berlin, la cité de Calvin accueille la 4e conférence de l'Alliance évangélique. Cette organisation qui a été fondée à Londres en 1846 et rassemble les protestants évangéliques, quelle que soit leur église d'appartenance, autour d'une base doctrinale commune. Ainsi, dès la fin du mois d'août, un grand nombre de fidèles affluent à Genève par train ou par bateau à vapeur pour les Suisses pour participer aux réunions, rencontrer leurs frères dans la foi, établir l'état religieux des pays, des participants, discuter des sujets qui préoccupent les esprits. Et parmi ces sujets d'actualité, en 1861, on peut citer en exemple la liberté religieuse, considérée comme garantie de l'ordre et de la paix des États, ou encore les écoles du dimanche, ou encore, je suis obligée de le signaler, la sanctification du jour du Seigneur. On dénombre au moins 1843 cartes de membres de la conférence délivrées uniquement à des hommes. Le plus gros contingent des membres est évidemment les Genevois, puis les Suisses, les autres cantons, l'Angleterre, la France, etc. Et vous pouvez constater qu'il y a même des personnes d'Afrique et d'Asie qui sont venues à Genève pour l'occasion. Les séances ont lieu à la cathédrale, qui a été prêtée par l'Église nationale, et à la chapelle de l'Oratoire, tandis que des réunions ont lieu dans la salle du Soleil Levant, la salle de la rue droite et les différents temples. En dehors des membres inscrits, les Genevois eux-mêmes bénéficient de la tenue de ces assises évangéliques, puisque des services religieux spéciaux sont organisés. Et bien que le consistoire de l'Église nationale ne prenne pas part officiellement aux conférences, plusieurs de ses membres y participent personnellement, et surtout le consistoire organise 4 services spéciaux à la Madeleine, dont un confié au célèbre pasteur Edmond de Pressensé, dont sa prédication électrisante, selon le journal de Genève, est goûtée par de nombreux auditeurs honorés d'entendre le célèbre pasteur parisien de la chapelle Thébault. Ou encore en des soirs, la foule afflue dans le même temple pour écouter l'oratorio Athalie de Mendelssohn, interprété par la Société de chants sacrés pour les hôtes de l'Alliance évangélique. Cette 4e conférence érige donc Genève dans les rangs des villes où se développe dès le milieu du siècle un internationalisme congressiste qui trouvera son âge d'or dans le dernier quart du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, autant dans les domaines religieux et intellectuels que scientifiques, philanthropiques et humanitaires. Genève devient donc, dès 1861, une des capitales du protestantisme évangélique. Genève, que le professeur Merleau-Bignet, dont je parlerai plus tard, souhaite voir s'unir toujours plus avec le monde évangélique lorsqu'il évoque justement ses conférences. Quelle est alors la situation des évangéliques à Genève en ce début des années 60? Alors, d'un point de vue institutionnel, les évangéliques ont vu leur position renforcée à Genève suite à la révolution radicale de 1846. En effet, jusqu'alors, leur abbaye, qui a profondément rebattu la carte religieuse de la cité de Calvin, avait introduit en 2 vagues plusieurs églises ou communautés indépendantes. La première vague eut lieu à l'époque de la Restauration, autour de la Société des Amis d'Amibos, dont la petite communauté s'est constituée en église du Bourg de Four en 1817, qui prendra ensuite le nom d'église de la Pélisserie lorsqu'une chapelle sera construite 20 ans plus tard. et autour de l'église du témoignage du pasteur César Malan, que l'on retrouve d'ailleurs aux conférences de l'Alliance évangélique que je viens d'évoquer. La seconde vague a lieu dans la haute société de Genève autour des pasteurs Louis Gossen, Antoine Galland et Jean-Henri Merle-Daubigné, avec la création en 1831 de la Société évangélique. Celle-ci a comme but l'évangélisation, la promotion de la lecture de la Bible et le colportage des traités religieux. Elle fonde son succès local avec l'école du dimanche du pasteur Gossen qui attire des foules, puis très rapidement la Société évangélique fonde une école de théologie en 1832, puis construit en véhicule l'oratoire en 1834, qui pouvait alors contenir 1000 places. Bien que ces trois pasteurs aient été destitués de l'Église nationale, la rupture n'est pas complète avec l'Église nationale, puisque les revivalistes participent à la vie ecclésiale, autant dans les nouvelles communautés que dans l'Église nationale, dont une branche, appelée orthodoxe, trouve un terrain d'entente avec les évangéliques. L'oratoire se considère alors comme une église de la réforme, indépendante de la Vénérable Compagnie des pasteurs de Genève. Mais ses membres espèrent que l'unité reviendra. D'ailleurs, les cultes de l'oratoire conservent la liturgie de l'église nationale avec le pasteur Sarobe, au contraire des fidèles du bourg de Four, puis de la Pélisserie, qui adoptent des services d'édification mutuelle avec au centre le repas du Seigneur. Ce sont toutefois des raisons politiques qui ont contraint la Société évangélique à créer une église institutionnelle. En effet, la création de l'église évangélique libre de Genève découle de la double révolution genevoise qui, en raison de l'introduction du suffrage universel masculin en 1842, puis de la révolution radicale de 1846, modifie institutionnellement l'église de Genève en affirmant le multitudinisme de la nouvelle Église, ce qui signifie que tous les baptisés sont acceptés pour autant qu'ils respectent le règlement de l'Église. Donc d'Église clergée, elle passe à une Église peuple, ce qui est contraire au principe même du réveil qui considère que l'institution religieuse doit être une Église de professants, c'est-à-dire une Église dont les fidèles ont vécu une conversion spontanée à l'âge adulte, appelée également nouvelle naissance. Le baptême n'est donc pas suffisant pour faire partie de la communauté des fidèles d'une église évangélique. Ainsi est fondée en 1848 une église de professants basée sur une confession de foi écrite, regroupant les fidèles de l'oratoire, de la pélisserie, la majorité des fidèles du pasteur Malan et une minorité des fidèles l'église nationale. On peut dire qu'à Genève, au début des années 1860, les évangéliques sont institutionnellement bien établis avec une église qui a bientôt une quinzaine d'années à son actif, une société évangélique qui a dépassé les 30 ans d'âge, tandis que la première vague du réveil a eu lieu il y a environ 45 ans. D'un point de vue doctrinal, les polémiques font toujours rage puisque les différentes tendances du protestantisme mène entre eux une lutte sans merci qui s'intensifiera d'ailleurs dans le cours de la seconde moitié du XIXe siècle avec le renforcement du courant libéral issu du rationalisme. Ainsi, l'Alliance évangélique joue-t-elle un rôle fédérateur très important au sein du protestantisme évangélique puisqu'elle réunit les individus par le biais de ses branches nationales et par des affiliations personnelles. D'un point de vue ecclésial, le renouveau religieux des évangéliques a favorisé non seulement une foi personnelle, mystique, que remis la Bible au centre de leur réflexion. Ainsi, les notions d'évangélisation et de témoignage de sa propre foi ont profondément renouvelé les pratiques religieuses en introduisant, par exemple, des services religieux où des psaumes sont chantés, en organisant des études bibliques, en organisant des réunions intimes où les fidèles prient et chantent ensemble, en imaginant des écoles du dimanche. La vie sociale et associative de ces chrétiens a donc été renforcée. Bien que la nature même du mouvement ainsi que nombre de ses assemblées, y provoquant repli sur soi, la vivacité religieuse se répand sur l'ensemble du protestantisme. Si bien que dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle, et encore plus au tournant du XXe siècle, un certain nombre de ces innovations entrent d'ailleurs dans les pratiques religieuses de l'ensemble des protestants. Car de minoritaires et novateurs au début du XIXe siècle, les évangéliques deviennent peu à peu durant la seconde moitié du XIXe siècle majoritaires et gardiens des doctrines traditionnelles face à l'émergence des libéraux, d'abord extrémistes, ensuite voilà, ce sera moins extrémiste, donc, mais des libéraux qui mettent en cause les fondements dogmatiques du protestantisme et qui vont s'étendre largement au XXe siècle. Et donc, au sein de l'Église évangélique libre, les deux types de cultes continuent de cohabiter pendant tout le XIXe siècle, à l'oratoire, une prédication qui maintient la liturgie de l'Église nationale, et donc, comme je l'avais dit, le pasteur en robe, et à la pélisserie, en service d'édification mutuelle, présidée tour à tour par un ancien, donc autant par un pasteur que par un laïc, avec au centre la scène. Voyons maintenant plus précisément la position de la société évangélique dans ce foisonnement religieux. Avec la création de l'Église évangélique libre, dirigée par un presbytère réunissant à son origine 19 anciens, donc ayant sans distinction entre les pasteurs et les laïcs comme mission le culte, le pastorat et l'administration, la société évangélique perd la direction de l'oratoire, la chapelle qu'elle avait construite. Ainsi, son premier rôle, qui était l'édification des fidèles, est en grande partie confié au presbytère de l'Église évangélique libre, dont plusieurs membres se retrouvent d'ailleurs au sein du comité de la société évangélique. La société évangélique peut donc se concentrer sur ses autres missions. D'une part, la formation de futurs évangélistes, pasteurs et théologiens avec sa faculté de théologie. D'autre part, sa mission de réveiller les chrétiens avec ses départements d'évangélisation et de colportage. L'évangélisation est la mission première et primordiale de la société évangélique. Elle repose sur la conviction de l'ignorance du peuple, qu'il soit protestant ou catholique, et du devoir de l'élite chrétienne de le réveiller, de le guider à travers la diffusion des saintes écritures et de traités religieux. Il s'agit donc non seulement de sortir le peuple de son ignorance, d'évangéliser les individus afin d'accroître le peuple des chrétiens, mais aussi et surtout de sauvegarder tous ensemble le christianisme afin de hâter la venue du règne de Dieu. Ainsi, dès la fondation de la société évangélique, son but premier est d'évangéliser en certains pays, c'est d'évangéliser la France. C'est-à-dire d'apporter un message évangélique aux communautés protestantes souvent isolées, en particulier dans les campagnes, et surtout de convertir les catholiques et la population qui s'est éloignée de la religion. Avec cette idée que la France est une terre de mission. Cet effort d'évangélisation de la France est considéré comme la principale activité de la société évangélique. Jusqu'au moins la Seconde Guerre mondiale, l'essentiel des forces de la société évangélique de Genève est d'ailleurs déployée pour le colportage religieux en France, où elle retrouve d'autres associations similaires, des sociétés bibliques, d'autres sociétés d'évangélisation de Suisse, d'Angleterre, d'Écosse également, la société évangélique française également. Donc elle n'est pas seule à agir. La majorité de ces autres réalisations y concourent, en particulier la faculté de théologie qui est un des maillons du processus d'évangélisation de la France. En effet, elle accueille de nombreux étudiants français et elle envoie la majorité de ses anciens étudiants faire leurs premières armes dans des missions de colportage, des stations d'évangélisation ou des paroisses constituées justement en France, mais certes aussi ailleurs, mais dans une moindre mesure, et vous en entendrez largement parler dans les exposés suivants, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais par exemple en Belgique, en Italie, dans les vallées vaudoises, à Pignerol notamment, en Algérie et même en Égypte. La publication en 1882 d'un recueil de récits et de souvenirs de colporteurs évangélistes et pasteurs actifs en France, notamment dans le Dauphiné, l'Auvergne, les Alpes-Maritimes, est révélateur de cette priorité lorsque l'on sait que cet ouvrage est l'unique publication pour célébrer les 50 ans de la Société évangélique. C'est d'ailleurs à cette époque que la Société évangélique de Genève connaît son apogée, comme nous le verrons dans un instant. Voyons maintenant son fonctionnement. La Société évangélique est dirigée par un comité dont les membres, donc en comité évidemment avec un bureau, dont le bureau est présidé habituellement par un laïc. Les membres de ce comité, qui compte exclusivement des hommes jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1939, se répartissent dans les différents départements qui ont chacun un comité, un bureau et surtout des finances propres. Par ailleurs, la Société évangélique compte un certain nombre de membres honoraires et des membres correspondants, dont la plupart sont des pasteurs ou des membres d'autres sociétés évangéliques. L'étude de ces membres correspondants est assez intéressante parce que ça nous permet de voir les réseaux, en particulier en France, au Royaume-Uni et même aux États-Unis, de la Société évangélique de Genève. En outre, chaque département peut associer à ses activités un certain nombre de membres adjoints et principalement des pasteurs et des professeurs, ainsi que des chrétiens qui reçoivent des missions et qui sont appelés les ouvriers de la Société évangélique, faisant évidemment référence aux ouvriers du Seigneur, tels que les évangélistes et les colporteurs, selon une hiérarchie bien définie. Et bien que le nombre exact de ce département variera au fil des ans et qu'apparaîtra en plus une commission des finances extérieures à ces départements, on peut globalement compter trois qui traversent tout le XIXe siècle. Il y a d'abord le département de théologie, qui est hiérarchiquement le plus élevé, et qui est chargé de recruter les professeurs, admettre les étudiants, distribuer les bourses, fixer les cycles d'études, veiller aux examens. Et la formation se fait en deux étapes. Nous avons d'abord une école préparatoire qui ne dispense pas uniquement des cours de théologie, mais aussi d'autres matières, notamment des matières scientifiques. On a par exemple le docteur Gallopincher qui donne des cours d'algèbre, de géométrie, d'astronomie même. D'astronomie à l'école de théologie, à l'école préparatoire, il faut le penser quand même, et forme les colporteurs et les évangélistes. Tandis que l'école de théologie, donc qui est en quelque sorte le deuxième cycle, l'école de théologie forme les pasteurs et les professeurs de théologie. L'enseignement revivaliste qui est dispensé à l'école de théologie se veut en opposition à celui de la faculté de théologie de l'académie puis de l'université, qui est jugé, je cite, « froidement nationaliste », et ensuite qui est jugé « libéral ». Le second département, celui de l'évangélisation, est subdivisé dès 1840 en deux sections. Nous avons d'abord le département de l'évangélisation de l'intérieur, qui correspond à la Suisse, et celui de l'extérieur, qui œuvre dans les pays européens limitrophes, dans des pays outre-mer dénommés pays de mission lointaine. Les membres qu'on pourrait appeler missionnés, c'est-à-dire des ouvriers, sont des évangélistes formés au département de théologie. Ils travaillent dans des stations fixes, on ne parle pas de paroisse pour les évangélistes, on parle de stations fixes, afin de consolider le travail accompli en amont par des missions de colportage, afin également d'ouvrir des écoles, de contribuer à la publication des textes édifiants. Et régulièrement, les évangélistes reçoivent la visite de membres du département donc de l'évangélisation de l'extérieur, chargés autant de visiter les stations d'évangélisation que de réveiller eux-mêmes les fidèles. Le troisième département est celui de l'œuvre biblique et de colportage, et c'est le cœur même de la Société évangélique, qui lui donne, je cite le règlement organique de 1861, sa raison d'être. Il est chargé d'acquérir et de disséminer des bibles et des livres religieux, de publier des écrits religieux édifiants et de collaborer avec les sociétés bibliques et les autres sociétés de livres religieux et d'évangélisation. Donc, il engage des colporteurs, leur donne des missions précises. Et donc, j'ai parlé des livres qui étaient répandus, des Bibles, des Nouveaux Testaments, des Anciens Testaments, mais également en version abrégée. Il y a également énormément de nombreux almanachs qui sont distribués. Alors, qui sont ces fameux ouvriers, ces membres missionnés, ces colporteurs de la société évangélique? Ce sont de jeunes gens, parfois très jeunes, 16, 17 ans même, qui sont recrutés dans des milieux modestes, des petits artisans en majorité. C'est souvent des personnes qui ont déjà un métier. Et ils sont recrutés, la société évangélique les recrute dans des milieux modestes afin qu'ils soient à même de trouver les mots justes pour dialoguer avec leurs semblables qui connaissent mieux qu'eux-mêmes. Après une brève formation à l'école préparatoire, ils sont envoyés en mission, donc afin de vendre ces publications, mais ils doivent être capables de soutenir des controverses dans la rue, sur une place, dans les gares, puisque les gares deviennent vraiment des lieux importants dans la seconde moitié du XIXe siècle. Chaque quinzaine, en rapport, doit être envoyé à Genève, ces rapports sont devenus des mines d'informations, évidemment, pour les historiens. La mission du colporteur qui bat la campagne en hiver, surtout en été, ce sera plutôt les villes, et sillonne justement les bourgs, les bourgades, ces missions sont temporaires. En effet, être colporteur religieux n'est pas une fin en soi. C'est un temps de l'existence qui dure environ entre 2 et 8 ans. Avant qu'eux-mêmes fondent une famille, reprennent leurs activités professionnelles ou reviennent à Genève pour se former à l'école de théologie et devenir évangéliste dans une station fixe ou pasteur en paroisse. À ces trois départements sont adjoints selon les années des subdivisions particulières, ponctuelles, ou des œuvres plus ou moins attachées à la société évangélique, par exemple les œuvres des stations d'été, qui assure des services religieux protestants dans les stations thermales et montagnardes situées dans des régions suisses catholiques ou germanophones dès 1869 et qui a été fondée par Alexandre Lombard, qui était d'ailleurs l'oncle par alliance de Louis Appia et qui a occupé de nombreuses charges au sein de la société évangélique, notamment au département de l'évangélisation de l'extérieur. Il faisait d'ailleurs de nombreuses visites dans les stations en France et ailleurs, et également au comité général et à la commission des finances. De plus, les départements, et en particulier ceux de l'évangélisation et de colportage, doivent être particulièrement réactifs lors d'événements spécifiques. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, les évangélistes et colporteurs mobilisés sont remplacés par des volontaires suisses chargés de donner des soins spirituels aux soldats, aux blessés et aux malades, en même temps que des soins corporels. Donc, les évangélistes se sont ainsi transformés en infirmiers d'ambulance et il y a d'ailleurs un évangéliste qui est mort victime d'une épidémie. Chaque département ou bien évidemment les œuvres spécifiques de la société évangélique, à son fonctionnement propre, que ce soit d'un point de vue donc, administratif, mais surtout en financement propre, même si celui-ci compte une part de subsides du comité général, donc financement qui correspond aussi à des dons spécifiques et des recettes de leur activité et de leur vente. La vente des livres religieux apporte évidemment des recettes. Alors, observons maintenant la composition des membres permanents de la société évangélique. Dès son origine et durant toute l'époque que nous étudions cet après-midi, ces membres sont issus de la haute et de la moyenne bourgeoisie de Genève, avec une forte présence de pasteurs et professeurs en théologie. Même s'ils sont revivalistes, certains d'entre eux font partie de la vénérable compagnie des pasteurs, de l'Église nationale. Et donc après la création de l'Église évangélique, certains de ses membres se retrouvent également au sein du presbytère de l'Église évangélique libre, ce qui concourt souvent à la confusion entre les deux. Et nous avons donc une forte homogénéité au sein des membres de la société évangélique, homogénéité sociale renforcée par des liens familiaux. Donc on peut dire que la société évangélique est au cœur d'entrelacs de réseaux familiaux évangéliques et philanthropiques qui se sont engagés pour donner un souffle nouveau au christianisme et transformer la société. Et il va sans dire que la composition sociale de ces membres permanents, ainsi que des membres honoraires, des membres correspondants, diffère grandement, comme vous l'avez compris, des membres ayant reçu une mission, donc les ouvriers. Donc on l'a compris, la société évangélique peut être considérée comme un creuset religieux et philanthropique de la réforme chrétienne et sociale qui est menée au XIXe siècle et au début du XXe siècle, non seulement à Genève, mais également ailleurs en Europe, avec des réseaux internationaux qui s'installent donc dès le milieu du siècle, à l'instar de l'Alliance évangélique. Donc comme les exposés suivants suivront le parcours de plusieurs personnalités de la société évangélique, je ne vais pas m'attarder sur des parcours biographiques, bien que j'en aurais eu le désir. Mais voilà, je ne dirai rien. Juste évoquer brièvement, dire que Henri Dunant a fait partie de la société évangélique, mais aussi donc de nombreux laïcs, le comte, qui étaient vraiment des notables, hein, le comte Alexandre de Saint-Georges, et puis j'ai parlé tout à l'heure d'Alexandre Lombard, l'oncle de Louis Appia, mais je ne dirai rien. Si ce n'est qu'ils sont tous donc des témoins de cette volonté de réforme chrétienne et sociale qu'ils ont menée, soutenue par le foi inébranlable. Ainsi, je passerai à l'épilogue et la conclusion. D'abord, l'épilogue, car on peut se poser la question, comment évolue la société évangélique ? Donc nous l'avons vu, le premier tournant de la société évangélique a été la création de l'Église évangélique libre, puisque la société évangélique perd la direction de l'oratoire, la chapelle qu'elle a construite. Je parlais de la confusion entre la société évangélique et l'Église évangélique libre. Elle est fréquente au XIXe siècle, au XXe siècle et encore aujourd'hui. Et cette confusion est encore plus tenace, puisque certains membres de la société évangélique font partie également de l'Église. Et en 1864, par exemple, le presbytère demande à ses fidèles de bien distinguer leurs dons donnés à l'Église et ceux donnés à la société évangélique, car les confusions sont fréquentes. Le second tournant de la société évangélique se situe dans les années 1880, lorsque l'évangélisation intérieure, c'est-à-dire celle de Genève et de la Suisse, cesse ses activités, qui sont reprises par la société d'évangélisation populaire à laquelle appartiendra le charismatique pasteur Franck Thomas, qui la transformera en association chrétienne évangélique. Franck Thomas était d'ailleurs professeur à l'école de théologie. Et ce second tournant marque le début d'un lent déclin, car les 50 premières années de la société évangélique ont connu une forte expansion du département d'évangélisation et celui du colportage, avec de fortes ventes, des publications, de nombreuses vocations de colporteurs et d'évangélisation, d'installation de stations fixes. Mais à partir de 1881, on voit une stagnation des ventes, puis une érosion des recettes et des dons. Et on peut voir plusieurs facteurs de ce lent déclin. D'abord, le déclin général du colportage, qui est, à la fin du XIXe siècle, de plus en plus perçu comme une pratique suspecte, au même titre du vagabondage. Le développement de nouvelles formes de propagation de l'écrit, avec le développement des bibliothèques. Le recul justement de la priorité de l'évangélisation populaire au profit des missions lointaines et de la banalisation du recours de la Bible qui est beaucoup plus diffusée et qui provient également du mouvement de sécularisation. Le troisième tournant de la société évangélique aura lieu dans les années 20 avec la disparition de l'école de théologie en 21, L'enseignement est repris par la faculté autonome de théologie, les chorales du XIXe siècle étant apaisées et les enjeux du protestantisme se trouvant ailleurs. Quant au département de l'évangélisation, sa section de l'extérieur se maintiendra selon l'organisation du XIXe siècle jusqu'au début des années 20. Mais c'est une autre page de l'histoire que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais donc voilà. Brièvement, pendant ce temps, comme on parle d'évangélique, là j'ai fait l'évolution de la société évangélique, donc très très brièvement, quelle a été l'évolution de l'Église évangélique libre. Donc j'avais déjà, en 1883, en raison d'un conflit lié à la réécriture de la confession de foi, le groupe de la Pélisserie reprend son indépendance, et donc il y a l'Église de la Pélisserie qui est refondée. C'est le contraire, donc l'Église évangélique libre connaît à ce moment-là une phase d'expansion, avec la création de plusieurs paroisses et chapelles qui répond à une hausse de la démographique de la population du canton de Genève et une vague de construction d'édifices religieux et de paroisses, non seulement chez les évangéliques, mais également dans l'Église nationale et l'Église catholique. Et en 10 ans, on a donc deux nouvelles paroisses qui sont créées, la paroisse de Rive-Droite, la paroisse des Buis, au Paquis, une station d'évangélisation à Carouge, avec chaque fois des pasteurs spécifiques. Et donc ces lieux institutionnalisent le maillage à Genève de l'Église évangélique libre. Et en 1905, la paroisse du Petit-Lancy, avec sa nouvelle chapelle évangélique, où officie le grand-père de notre président, Charles du Grand Palau. Alors donc, l'Église évangélique libre, elle, a vu sa position dans la cité se modifier avec la loi de séparation entre l'Église et l'État en 1907, ce qui l'a institutionnellement placé sur le même pied que l'Église nationale ou l'Église catholique romaine ou l'Église catholique chrétienne. Donc elle a dû se repositionner par rapport à la vague de renouveau paroissial donc du début du XXe siècle et ainsi que par rapport aux différentes œuvres évangéliques dont la fameuse dont je vous ai parlé tout à l'heure du pasteur Franck Thomas, donc l'association chrétienne évangélique, Franck Thomas, attirait des foules considérables tous les dimanches au Victoria. En conclusion, on peut affirmer que la société évangélique de la seconde moitié du XIXe siècle est au cœur non seulement des réseaux évangéliques, mais également en creuset de la réforme chrétienne et de la réforme sociale que ces chrétiens engagés entendent mener pour sauvegarder le christianisme et transformer en profondeur la société, en créant des œuvres religieuses, mais aussi des œuvres philanthropiques destinées à donner un nouveau souffle à la société et à résoudre les maux de la modernité, suivant ainsi la profession prononcée par le pasteur et professeur Merleau d'Aubigné en 1861, les œuvres montrent la foi. Donc, par ailleurs, cette seconde moitié du XIXe siècle donc, a vu autant le développement fulgurant des activités de la société évangélique que le début dans l'an reflux. Et elle poursuivra néanmoins son idéal d'évangélisation confronté à d'autres types d'évangélisation avec le christianisme social, par exemple, et retrouvera et devra retrouver justement un nouveau souffle avec l'œuvre de la mission lointaine et la propagation de la prière. Mais ceci est évidemment une autre page d'histoire. Je vous remercie.